Alors pour faire un test, je vais vous demander de vous présenter.
Ah bon? Faut pas que ce soit très long. Françoise Fénin, Bar-sur-Seine.
Alors vous êtes née où et quand?
Alors, il faut que je vous donne ma date de naissance, mais c'est très indiscret. Je suis née le 19 mai 1938 à Troyes.
Où ça exactement?
À la clinique des Ursulines. Exactement.
Et que faisaient vos parents?
Alors, au moment où je suis née?
Oui, ou avant? Ou
Ou
après?
avant, ou après? Au moment où je suis née et après, mon père travaillait dans une usine de bonneterie disparue aujourd'hui, qui était les établissements Simon. Voilà.
Et c'était où ça?
Alors, c'était rue Charles Dutrex. Là où se trouve la coopérative Hermès aujourd'hui, la rocade, non c'est pas une rocade, c'est le boulevard Pompidou, coupe le territoire de l'usine en deux parties. D'un côté, il y avait des bureaux, c'est le côté de la coopérative Hermès, et de l'autre côté, on voit encore un bâtiment qui était l'usine proprement dite. C'était pas une grosse usine, hein, il y avait 200 à 300 ouvriers. Mais il a travaillé jusqu'à sa retraite dans cette entreprise. Voilà.
Et votre maman?
Et maman, la plupart du temps, elle n'a pas travaillé. Elle a un petit peu travaillé à domicile pour la bonneterie Simon. Parce que à une certaine époque, tout de suite après la guerre, dans les années 50, il y avait encore des bonnetiers et des ouvrières à domicile, des couseuses, elle était couseuse. Mais ça n'a pas duré très longtemps.
Et donc, vous habitiez où?
Alors, donc quand je suis née, mes parents habitaient Troyes, rue Julien Gray, c'est aux limites de Saint-Julien. Ensuite, mon père est parti, a été mobilisé en 38, puis en 39. Puis ça a été l'exode. Et ma mère est revenue habiter son village natal, qui est Polizy. Donc, on a habité Polizy de 1940 à peu près, probablement, à 1947. Donc, pour moi, le village de Polizy, c'est vraiment mon enfance. C'est quelque chose d'important. Et c'était le village de ma mère. Il y avait sa mère qui vivait encore. Et aussi, mon père a vécu une grande partie de son enfance et de sa jeunesse à Polizy. Donc, c'est vraiment le point d'ancrage familial, le village de Polizy. Mais ensuite, à partir de 1947, mes parents, alors mon père, après la guerre, donc après 1947, il a continué à travailler, il a retrouvé son poste chez Simon, et donc il prenait le train tous les jours pour aller travailler, et c'était quand même lourd. Donc en 1947, ils ont déménagé et on a habité Bréviande. Et en 1958, on a quitté Bréviande. Mon père a évolué dans l'entreprise et il est devenu directeur commercial de l'entreprise, bras droit du patron. Et il a été logé dans l'enceinte de l'usine où il y avait une jolie maison qui était faite pour le directeur de l'usine. Voilà. Donc j'habitais pas loin de la coopérative Hermès, là, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis voilà, et en 1960, je me suis mariée et on est venu habiter Bar-sur-Seine.
Alors quel était votre nom de jeune fille?
Humbert, H-U-M-B-E-R-T.
Et donc vous avez connu votre grand-mère?
Oui, j'ai connu ma grand-mère maternelle. J'ai connu mes deux grand-mères, ma grand-mère paternelle et ma grand-mère maternelle. Mais j'ai pas connu mes grands-pères.
Et alors qu'est-ce qu'elle faisait?
Alors, ma grand-mère paternelle, oh, elle faisait ce qu'elle trouvait à faire parce que son mari Enfin, c'était pas son mari, elle n'était pas mariée. À l'époque, c'était quand même assez extraordinaire. Est mort, mon père avait 14 ans. Donc, elle est restée seule avec 3 enfants. 3 enfants. Il y avait 2 enfants assez grands, mais il y avait 3 enfants qu'il a fallu qu'elle élève. Enfin, mon père avait 14 ans, il a travaillé hein, à ce moment-là. C'était le chef de famille. Et elle faisait son jardin comme on faisait à l'époque, vous savez, elle vivait presque en autarcie. Elle faisait son jardin, elle devait faire un peu de couture, elle faisait des lessives, enfin une femme vraiment simple. Elle allait travailler dans les champs ou dans les vignes. Et voilà. Et ma grand-mère maternelle, donc qui est restée veuve, elle avait à peine 60 ans quand elle est restée veuve. Sans pratiquement de ressources. Donc, elle vivait avec pas grand-chose aussi, hein, un jardin, des volailles. Elle tricotait des chaussettes à 4 aiguilles. Moi, ma grand-mère maternelle, je la revois, l'image que j'en ai, c'est une femme assise, courbée, sur son tricot à 4 aiguilles. Elle tricotait des chaussettes à 4 aiguilles. Et bien sûr qu'elle faisait pour les gens et qui lui rapportait un peu d'argent. Donc vous voyez, vraiment des gens très très simples.
Et alors, vous avez des souvenirs quand vous étiez enfant? Votre papa est revenu quand?
Ah bah oui, mon papa, je ne l'ai pas beaucoup connu puisque il est parti d'abord en 38, il est revenu. Alors là, j'ai pas de souvenirs. Hein. Alors il a été fait prisonnier en 40. Comme beaucoup, il a réussi à s'échapper, pas tout de suite, grâce à son frère. Il avait un frère, un policier, un frère aîné, qui était à la guerre quand le père est mort, hein, puisqu'il est mort en 1918. Donc, ce frère aîné, quand il est revenu, il a monté une entreprise de transport de bois. De transport de grumes. Hein, il allait débarder dans les bois et puis il transportait le bois au début avec des chevaux, ensuite avec des camions. Donc pendant la guerre, son frère étant fait prisonnier, il a demandé à avoir un prisonnier pour travailler dans son entreprise. Et mon père avait réussi quand même à se débrouiller parce que dès qu'il a été fait prisonnier, sa seule idée, ça a été d'essayer de s'enfuir, quoi. Et quand ils sont arrivés à Mahé-le-Camp, il a été fait prisonnier par ici, quand ils sont arrivés à Mahé-le-Camp, il a demandé à travailler dans une ferme, en se disant que ce serait peut-être plus facile de s'enfuir en travaillant dans une ferme. Et donc, mon oncle a demandé un prisonnier. Bien sûr, il a dit, je voudrais bien que ce soit mon frère. Voilà, et effectivement, il a eu gain de cause. Donc, mon père est revenu à Polésie. Il a effectivement travaillé chez son frère, mais il devait aller pointer toutes les semaines à Bar-sur-Aube auprès des Allemands parce qu'il était toujours considéré comme prisonnier. Il s'est engagé dans le même temps dans un réseau de résistance. Donc, là, j'ai quelques souvenirs de lui à la maison. Mais pas beaucoup, parce qu'il travaillait, le réseau de résistance devait l'occuper. Moi, je n'avais pas conscience de tout ça. Hein. Donc, j'ai quelques souvenirs. Et après, en 44, alors ça, je ne sais pas en quelle année il est revenu, peut-être en 42. En 44, il s'est engagé dans la deuxième DB. Donc, il est parti. Il a participé à la libération de Strasbourg en Alsace. Et puis, il est allé en Allemagne. Et il est revenu en 45. Donc, voilà. Moi, j'ai vraiment connu mon père à partir de 1945. Le reste, c'est vraiment des passages. Mais j'en garde quand même des images assez fortes.
Et vous aviez des frères et sœurs?
Non, j'étais fille unique.
Donc vous étiez entre femmes avec votre grand-mère et votre maman?
Mes deux grand-mères, même, je peux dire, maman et oui, et oui.
Ça
Bah,
n'a pas été trop dur en 45 d'avoir un homme qui vienne à la maison?
comment?
Ça n'a pas été trop dur en 45 d'avoir un homme qui vienne s'immiscer
Je
à la maison?
ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Non, je ne sais pas. Vous savez, on n'était pas dans le même état d'esprit à l'époque. Hein. Pas du tout. Hein. Et puis bon, c'était le lot de beaucoup de familles. Hein, les maris étaient partis. S'ils n'étaient pas à la guerre, s'ils n'étaient pas dans un réseau de résistance ou carrément en combattant, ils étaient dans des camps de travail en Allemagne. Donc, sauf s'ils étaient plus âgés. Mon oncle, par exemple, il était plus âgé. Lui, il était encore à Polisy, mais voilà, c'était le lot de beaucoup de familles, hein, finalement. C'est vrai que quand j'y pense, je me dis, de nos jours, on fait tout un pataquès parce que les pères sont pas là, les enfants, machin, truc. Mais nous, ça s'est passé tout naturellement. J'ai pas actuellement, et j'ai jamais eu d'ailleurs, l'impression d'un manque, l'impression de conflit au retour de mon père. Vous savez, on devait être content qu'il revienne, je sais pas moi. J'ai pas de sou... je... Voilà, ça s'est fait comme ça. Il est revenu, il est allé travailler à Troyes, après on est allé à Brévianne. Bon, j'avais une mère qui était très attentive, qui donnait tout ce qu'elle pouvait, donc finalement ça devait compenser. Voilà.
Et vous avez commencé à aller à l'école où alors?
À Polisy, à 5 ans, je suis allée à l'école à Polisy jusqu'à l'âge de 9 ans, donc puisque on est parti en 47, donc j'avais 9 ans. J'ai fait mes premières armes à l'école de Polisy, j'ai appris à lire à l'école de Polisy.
Comment c'était l'école à Polisy?
Oh, c'était, alors là, c'était pas du tout l'école d'aujourd'hui, hein. C'était une classe unique, mixte, quand même, avec une classe, qu'une école à Polisy, hein. Donc les petits de 5 ans comme moi, on était avec les grands gaillards de 14-15 ans. Il y en a qui sont encore là, hein, dont j'ai le souvenir. L'institutrice était très sévère, elle rigolait pas. Mais c'est pareil, j'ai pas tellement de souvenirs et pas de mauvais souvenirs. Ça s'est bien passé. Je pense que je ne devais pas être une trop mauvaise élève, parce que j'ai su lire très tôt, très vite. Le seul souvenir que j'ai marquant, c'est qu'une fois, on a quitté la classe avec l'institutrice, et on est monté dans les vignes sur la côte là au-dessus de Polisy parce que les Allemands allaient passer dans le village. Donc comme on ne savait pas, c'était à la fin de la guerre, comme on ne savait pas très bien ce qu'ils pouvaient faire quand ils passaient dans les villages, qu'il y avait des récits de massacres et tout ça, toute la population a quitté le village et s'est enfui. Et je me souviens très bien de la classe qui dans les rangs de vignes montait dans les bois au-dessus. Voilà, ça c'est un souvenir que j'ai de l'école. C'était quand même la guerre, donc c'est les souvenirs de guerre, plutôt il n'y en a pas beaucoup à Polisy, hein, la guerre elle était loin quand même, mais elle était quand même là, hein.
Vous n'avez jamais vu d'Allemand.
Ah si, il y avait des Allemands dans le village. Il y avait des Allemands à un moment donné qui occupaient le village. Et je me souviens même d'une fois où ils sont venus en rang serré, vous savez, marchant au pas avec le bruit des bottes. Je l'ai encore dans les oreilles. Et ils sont venus chez mon oncle, justement. Ils sont entrés dans les garages, dans les ateliers. Ils ont pris des pneus, des bidons d'huile, etc. Puis ils sont repartis. C'est une image très très forte. Il y a un avion allemand quand même qui est passé au-dessus de Polisy et qui a bombardé la gare de Polisot. Il s'est trompé, il a bombardé la Syrie à côté, mais quand même, je me souviens bien de l'avion qui est passé en rase-motte, les bombes qui sont sorties de l'avion. Vous voyez, c'est des images très fortes quand même, hein. Elles sont encore devant mes yeux aujourd'hui. Alors là, par contre, je me souviens d'un soir, là, je ne sais pas si j'ai eu peur ou si j'ai eu peur en lisant la peur sur le visage des gens qui étaient là. Il y avait le couvre-feu, hein, donc on était dans la cuisine du logement qu'on habitait à Polésie, qui nous avait été prêté par un monsieur très gentil, parce que ma mère n'avait pas de ressources pendant la guerre. Hein. Donc on était là, et il y avait mon père, alors là je me souviens bien de mon père, vous voyez, son visage, et des hommes. Et c'était des résistants. Mais bon, j'avais pas conscience de ça, moi, à l'époque. J'étais sur les genoux de l'un d'eux. Ils avaient des armes qu'ils avaient cachées dans un tas de sarments dans la porte. Ils avaient enfilé dans un tas de sarments. Et les Allemands, a toujours une petite troupe d'Allemands, je ne sais pas combien ils étaient, ils ont fait le tour de la maison, les bottes. Tout le tour de la maison. Et là, vraiment, j'ai lu la peur sur le visage des hommes qui étaient là. Je me souviens de mon père qui me regardait fixement. Et il est certain que s'ils avaient vu les armes dans le tas de sarments, ils auraient tous été emmenés et fusillés probablement. Donc là, il y a eu un moment très très intense. Ça, c'est un souvenir très très fort. Voilà, mais vous voyez, c'est pas énorme comme souvenir de guerre. Mais justement, je me dis, ces souvenirs-là, ils sont figés dans ma tête. Ceux qui ont vécu des choses terribles, qu'est-ce qui doit leur rester dans leur tête? Ça doit être terrifiant, quoi.
Et alors, là où vous étiez, il y avait des vignes un peu tout autour. Vous avez déjà participé? Vous êtes déjà allé sur les travaux de vignes?
Alors, il y avait pas beaucoup de vignes à l'époque, hein, quand même. On n'est pas encore dans la grande période de la vigne. Hein.
Et dans votre souvenir?
Et dans mon souvenir, oui, il y avait des vignes, parce que mon oncle en avait des vignes. Il faisait son vin pour lui. Il y avait un ami de mes parents qui avait aussi un peu de vignes et qui vendait du vin pour la consommation courante. Il ne faisait pas de champagne. Hein. Et ses vignes ne le faisaient pas vivre. Il avait 2-3 vaches, faisait du blé, je me souviens d'une séance de battage. Et c'est vrai que j'allais faire les vendanges dans les vignes de mon oncle. Je me souviens des vendanges, des repas de vendanges, des tartes aux raisins, des énormes tartes aux raisins qu'on faisait. Voilà, c'est des souvenirs joyeux que j'ai des vignes. Voilà, voilà ce que je peux dire.
Et alors, donc, vous aviez eu le bout des études à ce moment-là, quand vous êtes allé à l'école?
Alors, donc, je suis allée à l'école, le goût des études... Je sais pas, après on est allé à Bréviande. À Bréviande, il y avait une école de garçons, une école de filles. Donc j'étais dans l'école de filles en CE2, puisque j'avais 9 ans. Je me souviens que je travaillais pas mal, que j'aimais bien l'école. Mais quand j'ai eu l'âge d'aller en 6e, mes parents en ont parlé. J'ai 11 ans donc. Ils ont dit, aller en 6e, à 3, comment elle va y aller? Il n'y avait pas de car de ville à l'époque jusqu'à Bréviande. Ils s'arrêtaient à Marc Avenue, qui étaient les coopérateurs de champagne à l'époque. Donc, comment elle va aller là? Il va falloir qu'on lui achète un vélo. Et puis, elle va être demi-pensionnaire, elle ne mange rien déjà, tout ça. Leur petite fille unique... Alors, ils m'ont pas fait. Il y avait un examen pour aller en 6e. Hein. Ils m'ont pas fait passer l'examen. Bon, ils m'ont pas fait passer l'examen. Oui, je me suis pas révoltée. Hein. Je n'ai pas le souvenir de moi. Et puis, quand même, j'avais plus ou moins envie d'être institutrice. Si on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, peut-être que je répondais institutrice. Et je faisais l'école à mes poupées. Ça, je me souviens bien que je faisais l'école à mes poupées. Donc, l'année d'après, le directeur d'école est venu trouver mes parents et il leur a dit, écoutez, il faut absolument qu'elle entre en 6e. Il faut l'inscrire à l'examen. Il a insisté et il a convaincu mon père. Enfin, je pense qu'il n'a pas eu trop de mal à le convaincre parce que mon père a souffert de ne pas avoir fait d'études. Il a quitté l'école à 12 ans, comme tout le monde à l'époque. Il a d'abord essayé de faire des cours du soir avec son instituteur qu'il jugeait très, très bon et qui voulait l'aider. Mais quand son père est mort, il a laissé tout ça tomber. Donc, je pense qu'il y a eu chez lui un manque et qu'il s'est laissé facilement convaincre. Et voilà, je suis entrée en sixième avec un an de retard. On était deux de l'école de Brévian, on a entré en sixième cette année-là. Deux. Donc, c'était, vous voyez, un tout autre état d'esprit, un tout autre monde. Et puis là, bon, bah, ça m'a plu, hein, ça c'est sûr. J'allais en vélo de Brévian au Collège moderne de jeunes filles. Et oui, et puis j'ai passé le concours d'école normale. J'étais reçue au concours de l'école normale. Voilà. Je suis devenue enseignante. Dans un premier temps, enseignante, et après, 20 ans enseignante, et ensuite principale adjointe du Collège de Bar-sur-Seine, toute ma carrière au Collège de Bar-sur-Seine.
Donc, quand vous avez commencé, vous avez commencé où?
J'ai commencé à Bar-sur-Seine en 59, en quittant l'école normale. En quittant l'école normale, en fait, j'ai été nommée à Bossancourt, classe unique, parce que j'avais été un peu convaincue par les méthodes de l'école moderne de Célestin Freinet. Et la meilleure façon de les mettre en application, c'était les écoles à classe unique. Donc, je m'étais laissée convaincre et j'ai été nommée à Bossancourt. Mais l'institutrice de Bossancourt, qui était une institutrice auxiliaire, m'a écrit en me disant, voilà, moi je suis institutrice là depuis plusieurs années, j'ai ma famille à Bossancourt, j'aimerais bien y rester. Je me suis dit, je ne vais pas commencer ma carrière en mettant quelqu'un à la porte de son école. Donc je suis allée trouver l'inspecteur primaire. Alors c'était le Bossancourt, c'était le premier poste que j'avais demandé. J'étais sortie troisième de l'école normale, donc j'avais eu le poste que j'avais demandé. Alors je me disais, j'ai demandé en premier, puis maintenant je dis que j'en veux plus. Enfin, quand on est jeune, j'étais embêtée. Alors j'ai donc été trouver l'inspecteur, je lui raconte, je lui montre la lettre et tout. Ah, il me dit, ben voilà, je peux vous proposer un poste au collège de Bar-sur-Seine. Il y a un poste en... Choisissez, il y a français-allemand ou français-histoire-géo. Oh ben, je lui dis, moi j'aime mieux français-histoire-géo. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Ça paraît incroyable, mais ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que c'était l'époque où les collèges commençaient à se développer et où n'avaient pas assez d'enseignants pour mettre dedans. Donc ils sautaient sur les normaliennes en fait, parce que déjà on avait été triés à l'entrée de l'école normale. Donc ils considéraient, à tort ou à raison, qu'on était quand même des bons éléments. Donc ils nous sautaient dessus. Puis dans les classes primaires, ils mettaient des bachelières ou des bacheliers comme maîtres auxiliaires. Hein. Voilà.
Et
C'est
toujours
curieux
par
comme.
rapport à Freinet, comment vous avez été amené à découvrir?
Ah ben, j'étais amenée à découvrir Freinet en quatrième année d'école normale. Il y avait 4 ans à l'école normale, seconde, première, terminale, et puis une année de formation professionnelle. On faisait des stages dans différentes écoles. On faisait 2 stages par trimestre, 2 stages de 15 jours par trimestre. Et il se trouve qu'au deuxième trimestre, j'ai fait, alors c'est très curieux, parce que j'ai fait un stage de 15 jours dans une école à classe unique à Meurville, près de Bar-sur-Aube, avec une institutrice hyper traditionnelle, 40 gamins de 5 ans à 14 ans, qui menait ça avec une rigueur extraordinaire. Tout le monde était occupé, tout le monde travaillait, il n'y avait aucun problème. Mais enfin, elle utilisait encore des abécédaires de 1800 et quelques. Bon, donc j'ai fait ce stage-là et le deuxième stage que j'ai fait ce trimestre-là, je l'ai fait à Grange-l'Évêque, chez un instituteur qui s'appelait Monsieur Beaugrand et qui pratiquait les méthodes de Célestin Freinet, qui était vraiment un passionné de ça. Donc j'ai mesuré la différence, hein, et c'était aussi une classe unique. Et j'ai bien vu que j'ai tout de suite opté pour les méthodes Freinet, parce que elles étaient vraiment une bouffée d'air frais pour les gamins. C'était tout à fait autre chose. Je ne dénigre pas ce que faisait Madame, comment elle s'appelait d'ailleurs, son nom m'échappe, l'institutrice de Merville, Madame Moustard, qui faisait un travail extraordinaire, mais dans la rigueur, la discipline. Pour vous donner un exemple, les plus grands gamins de 14-15 ans, ils n'avaient pas le droit de nous parler dans la cour de récréation. On nous appelait les demoiselles, on était deux, et ils n'avaient pas le droit de nous parler. Donc, vous voyez, alors c'était tout à fait autre chose chez M. Beaugrand, et j'ai été séduite par ces méthodes qui laissaient l'enfant... Qui favorisait l'épanouissement de l'enfant, la parole de l'enfant, etc. Tout en étant aussi, ayant une certaine rigueur. Et c'est pas la liberté totale, hein, c'était le travail, mais en partant de ce qu'était l'enfant, de sa parole. Et j'étais séduite, voilà. Et je suis allée à un congrès à Mulhouse, aux vacances de Pâques de cette année-là, 59, c'est là que j'ai rencontré mon mari, qui était normalien, mais comme l'école normale de garçons, elle était avenue du 1er mai, et l'école normale de filles, en face de la... à proximité de la mairie de Sainte-Savine, vous voyez, on risquait pas trop de se rencontrer, donc je le connaissais pas. Je l'ai rencontré là, et on est allé, et c'était un congrès de l'école moderne, où j'ai rencontré Célestin Freinet. Donc il est sûr que j'étais très 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 convaincue, mais malheureusement en collège, on peut faire ça dans une classe unique où on a ses élèves à soi tout seul, etc. Mais en collège, c'est très difficile à appliquer, donc j'ai pas pu appliquer les méthodes Freinet, mais j'étais imprégnée quand même de l'état d'esprit qui présidait à ces nouvelles méthodes. Et je pense que j'ai pas regardé les élèves de la même façon. J'ai travaillé quand même avec ça derrière la tête, quoi. Voilà.
Et dans un parcours où il y a une certaine promotion, où on est dans Freinet, donc la liberté de parole, etc., est-ce qu'on n'est pas tenté à un moment donné par le féminisme ?
Par le...
Le féminisme. Parce que c'était dans les années où ça commençait à...
Ah oui, ah ben, c'est autre chose. Hein. Mais c'est vrai que j'ai été... Oh, est-ce que je peux dire que j'étais une féministe ? Non, je dirais pas ça. Mais... Bon... Mon mari et moi, on a été des militants politiques. Mon mari était... au Parti Socialiste, hein, plus à la fin de sa vie, mais il a été maire en 71, donc il s'est présenté aux législatives, il était un homme politique, hein, donc forcément, on avait les mêmes valeurs, voilà. Et automatiquement, c'est vrai que l'égalité de droit entre les hommes et les femmes, elle vient d'elle-même dans ces conditions-là. Le regard que je portais sur les garçons, sur les filles, certainement, était influencé par ça. Et le discours que je tenais aux filles, quand j'étais enseignante, mais aussi quand j'étais principale adjointe, hein, quand je disais aux filles, il faut essayer de réussir, il faut avoir un métier, il ne faut pas dépendre économiquement de votre mari, il faut être libre. Vous voyez, ça, c'est le discours, un des discours que je tenais aux filles.
Et qui passait ?
Ça, alors là, est-ce que les discours que font les enseignants passent ? C'est un vaste problème. Je sais pas. Je pense qu'il en reste une petite graine quand même. Peut-être, espérons.
Donc, enseignant français histoire, vous commencez à vous ouvrir les portes de l'histoire ou vous étiez déjà attentive
à... J'aimais l'histoire, j'aimais l'histoire. Oui, j'aimais l'histoire. Mais je me suis intéressée à l'histoire locale, enfin, à l'histoire locale, à la révolte des Vignerons d'ailleurs. Enfin, non, je ne devrais pas dire comme ça quand même. Mon mari s'est intéressé très vite à l'histoire locale. je ne sais pas pourquoi, mais j'étais de Polésie. Moi, c'était mon pays ici. Alors, est-ce que c'est pour cette raison-là qu'il s'est intéressé à l'histoire locale? Je sais pas, mais en tout cas, il s'y est intéressé. Il a constitué une collection de cartes postales sur Bar-sur-Seine, sur la révolte. Il recherchait des documents, il faisait les salles des ventes. Avant d'être maire, hein, il avait un peu plus de temps. Donc, et c'est par lui, finalement, que moi aussi, je me suis intéressée à l'histoire locale. Moi, je m'intéressais plus à l'histoire, quoi. Dans le but de l'enseigner, d'ailleurs, hein. Et donc, par son intermédiaire, je me suis intéressée à l'histoire locale, d'autant plus que j'étais de la région. Et en 79... En 79, oui, il y a eu une grande fête du champagne à Bar-sur-Seine. Bon, elle avait commencé avant d'ailleurs, on vous en parlera de ces grandes fêtes du champagne. C'était des fêtes tournantes. Donc elle tournait Bar-sur-Seine, Lérissé, Mussy et Soie. Et en 79, ah bah oui, c'était, il y avait eu. Avant, il y avait eu Mussy, Essois, Lérissé, tout ça. En 79, c'était à Bar-sur-Seine. Et c'est mon mari, évidemment, qui a porté en grande partie l'organisation, puisqu'il était maire de Bar-sur-Seine. Et moi, je me suis dit, je m'y suis pris un an avant, hein, et on en a discuté ensemble. Je me suis dit, ce serait bien qu'on fasse quelque chose sur la révolte des vignerons. Et je me suis mise à travailler là-dessus. Et j'ai sorti le petit bouquin de la SAFAC que vous connaissez peut-être.
Je ne l'ai pas trouvé, mais on en parlera tout à l'heure.
Oui, alors je peux vous en donner, j'en ai quelques exemplaires encore. Et voilà, j'ai travaillé là-dessus. Monsieur Donnet m'a proposé que ça paraisse dans la revue de la SAFAC. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis venue, en fait, que j'ai un peu creusé l'histoire locale. Évidemment, j'ai dédié ce petit ouvrage à mon grand-père, que je n'ai pas connu, mais et qui était au fond, au-delà de la mort, il était l'inspirateur quand même. Et voilà. Alors, j'avais l'intention de continuer. Seulement, en 79, je suis devenue principale adjointe du collège, par hasard. Et là, c'est plus l'horaire de professeur, hein. Professeur, c'était 20 heures. Là, c'était 40-50 heures par semaine. Donc, j'ai plus le temps de continuer à travailler, quoi. Je m'y suis remise à la retraite. Mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Alors, en 79, c'était pas facile de parler de la révolte, hein. Je marchais sur des œufs, hein. Parce que personne ne voulait en entendre parler. C'était le début de la reconstitution du vignoble. Le début de la reconstitution du vignoble, tout début, c'est 70. Donc 79. D'ailleurs, les fêtes du champagne étaient faites dans cet esprit-là pour faire connaître la région en tant que région viticole productrice de champagne. C'était ça l'objectif de ces fêtes du champagne. Donc c'était tout le début. Et alors, parler de la révolte, est-ce que ça allait pas être réveiller les vieilles querelles entre la Marne et l'Aube? Donc oulala, c'était un sujet scabreux. Mais malgré tout, alors j'ai essayé de faire l'ouvrage sans trop polémiquer, si vous voulez. Prudemment. D'ailleurs, certains vieux vignerons qui ne sont plus vivants aujourd'hui m'ont dit « c'est bien ce que vous avez fait bon. ». Mais beaucoup d'entre eux n'avaient pas envie qu'on en parle. Voilà. Bon, on s'arrête un petit peu là. Parce que vous me faites raconter ma vie.